France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 18h44, Zoé Sfez.
Bonsoir Pauline Barreau de Lagerie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ici parce que vous co-signez un article, les plateformes de micro-travail, le tâcheronat à l'ère numérique avec Luc Sigalo-Santos. Cet article, on le retrouve dans un petit ouvrage à la fois très court et extrêmement intéressant. Les nouveaux travailleurs des applis, c'est un collectif de recherche qui est donc dirigé par Sarah Abdelnour et Dominique Méda, sociologue qui travaille sur la question du travail et aussi des égalités entre hommes et femmes, notamment Dominique Méda, depuis plusieurs années. Le projet, l'idée de cet ouvrage, je crois, c'est d'appréhender la manière dont la gig économie, ou ce que vous appelez, parce que vous le reprenez à des termes de chercheurs, le capitalisme de plateforme, déplace dans les frontières entre travail professionnel, travail loisir, travail gratuit. Voilà, l'analyse de ces capitalismes de plateforme qui a émergé ces dernières années divise, on le sait, dans la société civile, qui fait l'objet d'enthousiasme et de beaucoup de critiques, mais aussi au sein de la recherche. Donc vous êtes plusieurs chercheurs à avoir travaillé sur ces questions, chacun en essayant aussi d'utiliser comme référence des processus, d'analyser des processus à l'aune d'autres processus qui ont déjà existé dans l'histoire. Vous signez cet article où vous vous intéressez à ce qu'on appelle le micro-travail ou le crowdsourcing. Est-ce que vous pourriez définir de quoi il s'agit? C'est ce que Antoine Grazili, que nous avons reçu ici, appelle les travailleurs du clic.
Oui, tout à fait. Le micro-travail, c'est une activité qu'on trouve désormais en ligne, avec des plateformes telles que Amazon Mechanical Turk, Figure Eight ou en France Full Factory.
Sur lesquelles vous avez enquêté.
Exactement, Full Factory. Et cette activité consiste en fait, les plateformes récupèrent des projets d'entreprises, de traitement de données, des projets de traitement de données, et les divise en micro-tâches qui sont distribuées à la foule des internautes. C'est pour ça qu'on appelle ça du crowdsourcing, la foule. Et ces micro-tâches donc sont confiées à des micro-travailleurs qui sont payés des micro-rémunérations dans ce système de nouvelles sous-traitances.
Alors c'est des rémunérations qui varient, on va le voir. Effectivement, le leader, celui qui a inventé ça, c'est Amazon. Amazon Mechanical Turk, reprenant l'image du Turc mécanique, ce fameux robot, finalement la première image de l'intelligence artificielle bien avant l'heure, c'était au 18e siècle. Et aujourd'hui, ces travailleurs du clic qui sont assez différemment répartis. Amazon est un énorme pourvoyeur de ce micro-travail, mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire par exemple quelle est la promesse pour ces travailleurs? L'idée, c'est un petit peu de rentabiliser vos temps morts, et concrètement, c'est quoi ces tâches?
Alors exactement, comme vous disiez, la question qu'on a dans ce collectif de chercheurs, c'est d'essayer de comprendre, de faire la part des choses entre le discours enchanté sur ce que va permettre la nouvelle économie, le numérique, etc., avec une libération des énergies, du travail collaboratif, etc., et puis la réalité du travail qui est souvent qualifiée de nouvelles formes d'exploitation, de cybertariat, etc. Et dans ce cadre-là, le micro-travail est très intéressant parce qu'il permet de voir comment de nouvelles tâches sont confiées à des travailleurs. Alors, les tâches, comme vous disiez, sont des petites tâches distribuées par des plateformes à des rémunérations très très faibles. Pour vous donner quelques exemples de ce que peuvent être les tâches qu'on trouve en ligne, identifier sur une photo s'il y a une tomate ou une pomme, ça va être payé 3 centimes pour une tâche estimé à 10 secondes. Transcrire un texte, on va estimer que ça prend une minute, sera payé 3 centimes d'euros. Et donc, on arrive avec des rémunérations qui sont souvent très, très basses.
Très basses, mais on vous le vend en fait comme finalement quelque chose de relativement peu qualifié, parce que finalement, à peu près n'importe qui peut le faire, et qui est un petit peu comme ça à la demande. Ce serait une espèce de travail en plus, voire même une optimisation d'un jeu.
Tout à fait. Pardon, j'ai oublié de répondre au début de votre question. Effectivement, la promesse qui est faite, c'est celle de marchandiser le temps perdu. Donc l'idée, c'est, dans une journée, vous avez du temps mort, du temps perdu, vous attendez à l'arrêt de bus, vous êtes dans la salle d'attente du médecin, etc. Vous avez du temps perdu, eh bien, tant mieux, la nouvelle plateforme est là pour vous permettre d'optimiser, de marchandiser ce temps et du coup de gagner de l'argent dans tous ces temps qui étaient perdus auparavant. Et donc voilà, il y a une promesse qui est faite, c'est pour ça que le côté enchanté il existe dans ce discours-là, et ce qu'on a essayé de voir c'est si les pratiques étaient conformes à ce discours enchanté, si effectivement c'était la possibilité pour des individus de gagner des petites sommes dans des moments qui auraient été sinon perdus et voilà.
Alors c'est intéressant de dire que vous avez travaillé sur une start-up qui existe en France et qui aujourd'hui mobilise, on va dire, une dizaine de milliers de ces fameux travailleurs du clic, alors qu'on est sur des choses beaucoup plus élevées aux États-Unis en termes de sommes et en termes de nombre de personnes qui travaillent aussi de public. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous avez l'air de dire qu'en réalité, ce travail-là, il est quand même très sous-payé et que il vous tombe pas du ciel. Il y a aussi tout un temps d'attente du moment où on vous donne la tâche. Concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat?
Alors, ce qu'on a fait comme recherche avec mon collègue Luc Sigalo Santos, c'est d'une part, on a interrogé un certain nombre de ces travailleurs et puis on a administré un questionnaire. Donc, on a comme ça une série de données sur le profil de ces personnes et sur leurs pratiques. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a, en gros, trois types d'usages de la plateforme. Il y a un premier usage qui est ce qu'on appelle la marchandisation, justement, du temps mort, l'usage interstitiel, qui est assez conforme à la promesse qui était faite. C'est des gens qui vont venir faire une petite tâche, repartir. C'est des gens, généralement, qui n'ont pas du tout besoin de ça pour vivre, des gens qui sont plutôt bien diplômés et qui, en fait, un jour, sont tombés sur la plateforme, ont trouvé ça amusant et, de temps en temps, ils font ça. Il y a un deuxième profil d'usagers qui sont des usagers qui planifient une heure ou deux heures en même temps qu'ils vont regarder la télévision ou avoir une soirée de libre pour faire une série de tâches et espérer y gagner un complément de revenu qui sera jamais très élevé mais qui voilà qu'ils estiment être nécessaire pour leur leur existence. Et il y a un troisième profil qui est un profil d'usagers intensifs qui alors est largement minoritaire. Hein. On a moins de 5% des personnes qu'on a interrogées qui déclarent travailler plusieurs heures par jour. Mais c'est un profil qui est très intéressant parce qu'il est un peu inquiétant. Ce sont des gens qui passent des journées à attendre des tâches, car en France, il y a plutôt une pénurie de tâches sur ces plateformes-là. Donc c'est des gens qui vont passer la journée à attendre des tâches payées les sommes que je vous ai dit tout à l'heure, quelques centimes d'euros. Et donc, ils vont à la fin du mois toucher quelques dizaines d'euros au maximum pour un temps quasiment plein sur la plateforme. Donc ça, c'est généralement des profils de gens sans emploi, en difficulté, et donc c'est certainement le profil le plus inquiétant lié à ces plateformes-là.
Antonio Casilli, qui a travaillé aussi là-dessus, rappelait que, notamment sur Amazon Mécanique et le Turc, ces sommes qui nous paraissent dérisoires, en fait, elles sont très recherchées par exemple, des travailleurs très peu qualifiés qui sont en Inde, qui sont dans d'autres pays. Vous essayez de comprendre aussi, d'envisager ce nouveau processus qui est très neuf, à l'aune de ce phénomène qui a été très important au 19e siècle, celui du tâcheron. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel était le rôle de cet intermédiaire du travail ouvrier qu'on a complètement oublié et qui a été tellement mal vécu qu'il a été interdit?
Tout à fait. Alors, le tâcheronat, qu'on appelait aussi marchandage, c'est une logique qui existait au 19e siècle, qui consistait pour le tâcheron à récupérer un projet, une tâche à faire, par exemple des vêtements pour les grands magasins naissants, et à le confier à des travailleurs à domicile, payés à la tâche. Et donc, cette figure du tâcheron, c'est vraiment la figure d'un intermédiaire qui fait l'intermédiation entre des travailleurs à domicile très peu payés et puis des donneurs d'ordre.
Effectivement, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir ou l'espèce de substrat qui reste dans le monde, c'est pas celui qui fait la tâche, c'est celui qui la répartit.
Voilà, alors les deux définitions peuvent exister, mais stricto sensu, c'est vrai que le tâcheron, c'est plutôt celui qui fait l'intermédiaire. Et on l'appelait également le sweater, c'est pour ça qu'on appelait ça le sweating system. C'est vraiment l'idée de celui qui gagne son argent sur la sueur des autres. Donc c'est celui qui extorque son gain sur le fait d'avoir fait suer les autres. C'est pour ça que c'est une figure qui a été très honnie au 19e siècle. Les réformateurs sociaux ont essayé de lutter contre ce système-là et qui a abouti finalement à son interdiction. Alors il y a eu plusieurs étapes, mais définitive début du 20e siècle, avec l'interdiction, la réglementation en fait du travail à domicile, son assimilation par la suite au travail salarié. Et voilà. Mais donc ce qui est assez incroyable avec les plateformes dont on parle dans le cas du micro-travail, c'est qu'on voit d'une certaine manière revenir cette forme de tâcheronat avec du coup des tâcherons 2.0 hein, que seraient Amazon Mechanical Turk ou Full Factory, qui prennent des projets, les distribuent à des travailleurs à domicile, payer à la pièce des petites sommes.
Et pour conclure, justement, vous concluez cet article en disant que la contestation à l'époque a été très vive. Aujourd'hui, elle n'est pas ou peu vive à l'encontre de ces fameuses plateformes. Et finalement, elles nourrissent un peu dans cette espèce d'idéal où finalement, l'ouvrier aurait été un petit peu lui-même aliéné par le salariat et que là, on lui redonnerait une forme d'autonomie grâce à ces plateformes-là. Aujourd'hui, on a du mal à considérer ces plateformes comme des tâcherons ou même comme de simples co-employeurs. Comment est-ce que vous lisez ce qui peut se passer dans les années qui viennent?
Alors, c'est difficile de lire ce qui peut se passer dans les années à venir, mais ce qui est vrai, c'est comme vous le dites, pour l'instant, il y a peu de contestations. Les travailleurs eux-mêmes, bon, pour plein de raisons, ont du mal à s'organiser. Certains ne le souhaitent pas, ils trouvent leur compte. D'autres, voilà, n'ont pas les moyens de s'organiser. Alors, c'est pour ça aussi que nous, on a pris à cœur de mettre en visibilité ce problème-là pour contribuer au débat public et à faire connaître ce cas de figure. Alors, effectivement, la responsabilisation des plateformes est une première voie, c'est-à-dire considérer que ces travailleurs sont des salariés des plateformes. Une autre voie, c'est la responsabilisation des donneurs d'ordre, des clients finaux, qui est une voie de plus moyen terme.
De plus moyen terme et plus privilégié. Merci beaucoup à vous, Pauline Barraud, Lagerie. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage collectif, Les Nouveaux Travailleurs des Applis, qui va donc explorer à la fois ces plateformes de micro-travail, mais aussi des plateformes un peu différentes comme Etsy et les autres Uber et autres que nous connaissons mieux. Un livre qu'on vous conseille, qui fait un bon point sur la question dans la recherche en France aujourd'hui.